En 1961, Alan John Percival Taylor jeta un pavé dans la mare. Alors que ses collègues considéraient que Hitler avait voulu cette Deuxième Guerre mondiale et que lui seul en était l'auteur, le célèbre historien britannique affirma au rebours des vents dominants que la guerre de 1939, loin d'avoir été préméditée, avait été un accident, le résultat de bourdes diplomatiques commises dans les deux camps. À l'en croire, le Führer n'aurait agi qu'en opportuniste, sans suivre de plan préétabli, ce qui explique que les dirigeants des démocraties occidentales n'aient pas perçu un programme par définition impénétrable. Adolf Hitler n'en avait pas, sinon l'ambition de réaliser l'espérance pan-germaniste de Guillaume II. Si ces thèses provoquèrent un choc à l'époque, elles ne suscitent aujourd'hui qu'une indifférence polie. Elles invitent toutefois à rouvrir le dossier du processus ayant conduit à la Seconde Guerre mondiale selon des logiques qui, faut-il le souligner, se placent aux antipodes des dynamiques ayant conduit à l'embrasement de 1914. En 1914, le déclenchement du conflit suscita la stupeur. À l'été, nul n'imaginait que l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo déclencherait un conflit d'une telle ampleur. Les ambitions aveugles des dirigeants allemands, russes et austro-hongrois, la passion des peuples, les contentieux du XIXe siècle finissant, suffirent pourtant à amorcer un mécanisme dans lequel les puissances s'engouffrèrent, en raison de la quasi-automaticité des alliances et parce qu'elles tablaient sur une guerre courte, quelques semaines, peut-être quelques mois. En 1939, en revanche, chacun, du ministre au citoyen le plus humble, s'attendait à l'ouverture des hostilités. Tous avaient vécu dans cette crainte, durant les années 30, une crainte d'autant plus vive qu'ils pressentaient que cette guerre-ci serait longue et barbare. Ceci est l'unique différence entre l'Europe d'avant la guerre et celle de l'après-guerre, nota Luis Rodriguez Embil, un écrivain cubain. La première allait à la guerre les yeux fermés. L'actuelle semble marcher vers elle avec les yeux ouverts. Pourtant, alors que l'ancien continent s'était embrasé dès 1914, les armées restèrent l'arme au pied pendant près de 9 mois à partir de septembre 1939. Scandées par la guerre d'Espagne ou l'invasion italienne de l'Albanie, les années ayant précédé le début du conflit ressemblèrent certes bien peu à la paix, sinon à une paix armée. Mais les hostilités qui s'ouvrirent n'évoquèrent pas pour autant la guerre, puisque, si la Pologne fut envahie, le front, à l'ouest, demeura immobile. Parce qu'elle paraissait obscure, les causes de la Grande Guerre, dès que les canons se turent, provoquèrent de furieux débats. Certes, le fameux article 231 du traité de Versailles pointa les responsabilités du Reich. Les gouvernements alliés et associés déclare, et l'Allemagne reconnaît, que l'Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés. Mais l'Allemagne ne cessa de contester cette version, largement débattue par les historiens, au point que les polémiques ne se sont jamais éteintes. Ce type de controverse épargne en regard le champ de la Seconde Guerre mondiale. Et pour cause. Le rôle joué par Adolf Hitler d'abord, par les dirigeants japonais ensuite, suffit à les désigner comme les principaux fauteurs d'un conflit dont ni les peuples, ni les dirigeants européens, américains ou asiatiques ne voulaient. De sorte que la question se joue à front renversé. Les historiens ont réfléchi aux causes de la Première Guerre mondiale pour comprendre comment un conflit imprévisible avait pu se déclencher. Plutôt que de s'interroger sur les causes évidentes de la Seconde, ils préfèrent se demander comment elle aurait pu être évitée. Winston Churchill proposa d'ailleurs de baptiser ce conflit la « guerre inutile »,« the unnecessary war », car jamais une guerre n'aurait été aussi facile à arrêter. Une formule qui mésestime l'implacable enchaînement qui conduisit à l'embrasement. Weltanschauung. Loin de naviguer à vue afin de profiter des occasions qui se présenteraient, Adolf Hitler entendait réaliser son programme de politique extérieure, théorisé dans les deux livres de Mein Kampf, publiés en 1925 puis en 1926. À la différence des dirigeants de la République de Weimar, il souhaitait obtenir non pas la révision du traité de Versailles, mais son abolition, ce qui revenait à briser les clauses limitant ses forces armées, à retrouver les colonies perdues et à recouvrer les frontières du Reich qui préexistaient à la Grande Guerre. Cet objectif postulait un affrontement avec la France qui, affirmait-il, est et demeure l'ennemi mortel inexorable du peuple allemand. Cela posé, la révision de l'ordre instituée en 1919-1920, loin de constituer son objectif final, ne marquait qu'une première étape. Persuadé que la question raciale était la clé de l'histoire du monde, Hitler entendait en effet assurer le triomphe des Aryens sur les races jugées inférieures, les Juifs au premier chef, dans une optique darwiniste censée marquer le triomphe des forts sur les faibles. Enfin, pour garantir la prospérité de son peuple, il voulait s'assurer un espace vital, Lebensraum, à l'Est, une idée inspirée du géopoliticien Karl Haushofer. Le nouveau Reich devrait emprunter une fois encore la route ouverte par les anciens chevaliers teutoniques, livrés par l'épée allemande, la glèbe à la charrue allemande, mais à la nation, son pain quotidien. Loin de se contredire, ses ambitions s'épaulaient. Le Führer devait anéantir les Juifs et restaurer ainsi le sens de l'histoire, et il devait en même temps conquérir un espace vital pour le peuple allemand au sein de la lutte pour la vie, ainsi restaurée et telle que la voulait la nature. Les deux principaux objectifs de Hitler, la destruction du bolchevisme juif et la conquête de l'espace vital à l'Est, avaient ainsi été fixés dans un programme et reliés en un concept cohérent. Ces projets s'inscrivaient dans un contexte historique que deux paramètres régissaient. Tout d'abord, bien des puissances rejetaient le traité de Versailles, qui portait à leurs yeux le poids d'une triple iniquité. D'une part, les Allemands prétendaient qu'il avait emprunté la forme d'un injuste diktat imposé sans négociation aux vaincus. D'autre part, ils méconnaissaient les rudes sacrifices que plusieurs pays avaient endurés durant la Grande Guerre et ne les rémunéraient pas à leur juste prix. Ce qui nourrit les frustrations du Japon et engendra le thème de la « victoire mutilée » en Italie. Les règlements de l'après-guerre, enfin, ignoraient bien souvent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que promettaient les 14 points du président Wilson. Le vœu des fortes minorités nationales allemandes, en Pologne et en Tchécoslovaquie, ou magyars, en Roumanie comme en Yougoslavie, avait été ignoré, ce qui alimenta crispation et ressentiment. Ensuite, la crise de 1929 sema le chaos. Elle paralysa les échanges commerciaux internationaux, renforça les tendances protectionnistes des nations, ruina la fragile stabilisation en Europe et, en accroissant la misère et le nombre de chômeurs, suscita de puissantes tensions sociales. Doit-on pour autant considérer le traité de Versailles et la Grande Dépression comme les causes de la Seconde Guerre mondiale? Le pas est difficile à franchir, puisque ces prétendues causes ne produisirent pas les mêmes effets. En effet, plongés dans la détresse, les États-Unis ne considérèrent pas la guerre comme une issue à leur tourment, et la Turquie, dépecée par le traité de Sèvres, 1920, mena une diplomatie pacifiste et non révisionniste durant les années 30. Le contexte de l'entre-deux-guerres, en d'autres termes, créa une configuration propice au nazisme, mais ne saurait être considéré comme la matrice d'un conflit dont Hitler fut assurément le principal responsable. Plutôt que d'accepter humblement une place pour l'Allemagne au sein d'un ordre économique mondial dominé par des pays anglophones prospères, il choisit de mobiliser les frustrations accumulées de sa population pour lancer un défi épique à cet ordre. Il préférait que le Reich domine l'ordre mondial plutôt que d'y trouver sa place. Le défi était de taille, et les projets développés dans Mein Kampf semblent narguer la raison. Il n'était pourtant pas dénué de rationalité, si barbare fut-elle. En 1939, l'Allemagne était un pays pauvre, où plus de 15 millions d'habitants vivaient encore de l'artisanat ou de l'agriculture.